l'UMP l'a emporté sur le candidat Front National. Moi, j'ai une pensée un petit peu triste pour cette pauvre Marie Le Pen et ce pauvre Jean-François Copé, voir ainsi leurs enfants se déchirer pour un poste, ça doit être pénible. Enfin bon, ne désespérons pas, ils vont se réconcilier.
Mermet, je viens d'entendre ton émission sur la coulée douce de 83-84. Ça fait 30 ans que je repense régulièrement à cette émission. Alors, je ne sais plus si c'était en 83 ou 84, en tout cas, je crois que c'était en 84. J'avais donc 13 ans cet été-là et j'étais chez ma grand-mère. Et vers 14h, je m'enfermais dans ma chambre avec mon poste de radio pour me masturber pendant une heure dans cette initiation à l'érotisme. Merci de cette découverte, Mermet. Salut à toi.
Allô, Daniel, je vous remercie de tout cœur. Votre émission, c'est un vrai bonheur. Bonnes vacances à tous et surtout la rentrée, ne me lâchez pas. Bisous à tous, à bientôt. Ninoche de Vienne.
Les portes claquent, mes mains aussi. Flic-flac, flic-flac, son cul rougit.
Merci Daniel de ces réminiscences érotiques qui illustrent le pouvoir de la voix qui est immense. En 84, j'avais 14 ans et tes émissions étaient une porte entrouverte sur un univers insoupçonné. Et là, j'imagine les messages outrés des bigots et des bigotes qui perdurent, qui vont s'outrer 30 ans après de l'indécence, vont parler à nouveau du service public, de la radio nationale, trouver impossible qu'on diffuse de telles choses en milieu d'après-midi, à l'heure où tout le monde, où personne ne dort, où tout le monde écoute. Mais contrairement à l'époque de la coulée douce, il y a aujourd'hui Internet, qui ne dort jamais, lui, et qui déverse en continu des flots, des flux de vulgarité machiste et simpliste, qui ignore tout des vibrations qu'aujourd'hui j'ai entendues, réentendues. Les vieux et les gens de droite devraient te féliciter de cet éclair de poésie brûlante dans un univers de silicone tatoué. Merci donc, Daniel. Ce serait bien de reprendre le flambeau. Au revoir.
Ah, que les Brésiliens font plaisir. Eux, c'est pas parce qu'on leur colle une coupe du monde de foot qu'ils dansent la samba, tout contents et réjouis de l'événement mondial. Et non, eux, ils se contentent pas de ça. Et pourtant, ils aiment le foot. Mais ils préfèrent une meilleure répartition des finances publiques, du social, des hôpitaux, des crèches. Et le prix du ticket de métro est plus important que la gloire de nouveaux stades ruineux et inutiles. Le foot ne les abrutit pas. Enfin, pas tant que ça. Pas tant que nous. Tiens, tenez, à Lyon, le ticket de métro, c'est le plus cher d'Europe. Et il augmente régulièrement. Et personne n'est jamais descendu dans la rue pour autant. Évidemment, on promet aux Lyonnais un nouveau grand stade ruineux, inutile, et qui est surtout un véritable scandale financier. Ah, si le Brésil pouvait faire cesser la grande arnaque du foot populaire, tous les supporters de l'OL descendraient dans la rue, réclameraient eux aussi la baisse du ticket de métro, et on peut rêver la fin des régimes spéciaux des sénateurs et députés, et ça serait mieux que début, ça serait un beau début. C'était Pascal de Lyon.
Bonjour, c'est la RCO ici, j'habite à Rio. Je suis de très près les manifestations qui ont lieu ces derniers jours. Tout a commencé avec une protestation contre l'augmentation des transports publics, puis après ça a dérapé vers beaucoup de peines dont la citoyenneté brésilienne se sent un peu impuissante, c'est-à-dire la situation de la santé publique ici, qui est catastrophique, de l'éducation publique, de l'assainissement, du transport public et d'autres choses, et notamment les dépenses très élevées surfacturées des travaux des stades pour la Coupe du Monde. On a fait construire des stades dans des villes où il n'y aura pas assez de demandes parce que les championnats locaux il y a 800-600 spectateurs par match. Donc, on a fait construire des stades avec 50 000 places. Le coût de ça, tout cela monte à 30 milliards de réals. Donc, le peuple, il n'est pas d'accord avec ça. Il commence à réaliser qu'on dépense beaucoup d'argent pour rien, en fait. Le Brésil ne va rien gagner du point de vue social comme conséquence de cela. Parce que du point de vue social, de l'indice de développement humain de l'ONU, le Brésil occupe la 85e place, loin derrière certains pays de l'Amérique latine. Aujourd'hui, il y a l'inflation qui revient. Les gens sont endettés parce que la consommation a été très, très poussée par les gouvernements pour faire le bien du pouvoir économique, pour que le pouvoir économique puisse vendre plus. Les gens sont endettés et les gens sont en panique, quoi. Et voilà, c'est cette situation qui mobilise les gens à se manifester. C'est ça. Salut, Daniel. À bientôt, j'espère vous revoir. Bon courage, bon programme.
Ah, merci, Lercio, l'ami de Rio, qui nous donne, vient de nous donner une analyse express que vous avez peut-être un peu de mal à entendre, mais particulièrement efficace sur ce qui se passe au Brésil. Samedi, il y avait deux manifs dans l'après-midi. Une manif pour la Turquie, en soutien à la contestation en Turquie, qui ne désarme pas. Et puis, une manif aussi en soutien à ce qui se passe au Brésil. Samedi, il y avait des manifs dans une centaine de villes au Brésil et des manifs qui sont soutenues par 75% de la population. Que se passe-t-il dans ces deux pays ? C'est des pays différents, avec des situations différentes, mais qui figurent parmi les pays émergents, vous savez, les BRICS. La BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Ouest, c'est Afrique du Sud. Et ben voilà, depuis quelque temps déjà, ces pays sont en train un peu de décliner et même de vaciller, nous dit le quotidien Le Monde. Et au moment où, pour ce qui concerne le Brésil, on se lance dans des dépenses considérables pour les grandes manifestations qui vont avoir lieu, les grandes manifestations sportives qui vont avoir lieu. 10 milliards d'euros vont être sont investis dans ces immenses travaux, alors que, bien sûr, la population continue de ramer. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans ces deux pays et dans d'autres pays que je viens de citer ? Eh bien, c'est un truc tout simple. C'est que la croissance, ce n'est pas le développement. La croissance, ce n'est pas le développement. Or, nous nous basons sur des chiffres de croissance. C'est ça qui nous sert de repère, de base d'analyse, de vision politique, etc. Mais non, la croissance, ce n'est pas le développement. Et ce que vient de nous dire cet auditeur de Rio, c'est que le Brésil, sixième puissance mondiale, c'est quand même formidable, avec ses 200 millions d'habitants, 195 millions d'habitants, est classé 85e au rang de l'indice de développement humain. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a établi cet indice de développement humain. Eh bien, de ce point de vue-là, développement humain, c'est-à-dire développement social durable, le Brésil, sixième puissance en termes de croissance, si on prend cette façon de chiffrer les choses, en fait, n'est que 85e rang en matière d'indice de développement humain. La Chine, deuxième puissance économique du monde, est classée 101e au rang de l'indice de développement humain. C'est tout simplement ça qui se passe et c'est tout simplement ça qui explose au moment où il y a une partie de la population qui va un petit peu mieux. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est quand ça va mieux que ça va mal. C'est quand ça va un peu moins mal que les plus pauvres qui montent un tout petit peu, commencent un peu à réfléchir et trouvent que c'est absolument injuste, que les conditions, les inégalités sont absolument insupportables. Là, tout a démarré au Brésil avec, à São Paulo, avec l'augmentation des tickets de transport, 15%, c'était 10-15%, ça semble pas terrible, et c'est pourtant ça qui a mis le feu aux poudres dans cet immense pays. On ira aussi en Turquie, on va pas aller vraiment en Turquie, pour tout vous dire, on va rester à Paris, on va aller dans ces deux manifs de samedi après-midi, Turquie, Brésil, pour essayer un peu de comprendre autrement, à notre façon, à nous de là-bas, si j'y suis, ce qui se passe dans ces pays, ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils ont de différent, bien sûr, et en quoi tout cela nous concerne. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour tout le monde, enfin une bonne nouvelle. Aux États-Unis, un homme va sortir de prison 10 ans plus tôt que prévu. 10 ans plus tôt. Cet homme-là s'appelle Jeffrey Skilling. Quand on s'en tient là, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Jeffrey Skilling, c'est l'ex-PDG d'Enron. Enron, c'est cette boîte qui faisait du fric en spéculant sur le cours de l'énergie aux États-Unis. Et ça a été une des plus grosses faillites frauduleuses des États-Unis. Donc voilà, le mec, il avait les mains pleines de cambouis, il était chargé comme une mule. Mais non, il sort 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, putain. Oui, bonjour, on est dimanche matin, et j'écoute sur Inter une annonce après la revue de presse. Sommes-nous condamnés à avoir fermé nos usines ? Nos usines, c'est pas nos usines, c'est les usines de propriétaires industriels capitalistes qui sont sur le territoire français, mais en aucun cas ce ne sont nos usines. Faut rectifier les choses.
Tu vois, Daniel, parmi tes auditeurs, il y a des socialistes, mais tous ne se ressemblent pas. Vendredi, tu as passé le message de Catherine Arkilovitch, qui t'écoutait avec bonheur avant là-bas si j'y suis, et qui s'est éloignée quand, disait-elle, tu t'es politisé dans un sens qui ne lui convenait pas. Eh bien moi, également socialiste, je m'honore d'avoir signé avec plus de 200 000 autres auditeurs la pétition de soutien à ton émission menacée de suppression en 2006. Et depuis, je n'ai plus manqué une seule émission jusqu'à ce jour. Un détail dérisoire sans doute, Catherine Arkilovitch était la candidate socialiste qui arrivait troisième au premier tour des législatives de Carpentras, s'est maintenue au deuxième, contre l'avis du parti, et a favorisé de fait la victoire de la candidate du Front National, Marion Maréchal Le Pen.
Si vous allez à Istanbul, munissez-vous d'une bonne paire de chaussures de marche. Visitez le palais, la mosquée, le grand bazar, c'est une étape obligée. Et ensuite, fuyez les touristes et perdez-vous dans Istanbul. Prenez les rues, les ruelles, sans indicateur, sans guide. Et là, vous tomberez sur des immeubles où, avec quelques petits signes de reconnaissance, vous pourrez trouver, en montant quelques étages, sur le toit, des restaurants super, où il n'y aura pas un seul Allemand en short, où vous pourrez déguster des mets délicieux au milieu de stambouliotes dont certains parleront français et qui viendront vous voir, avec lesquels vous pourrez discuter de la ville, qui vous donneront des bons plans pour le restant de votre séjour. Et vous passerez un séjour délicieux, un séjour authentique, un vrai séjour de voyageurs et non pas de touristes, pour un prix extrêmement modéré, le tout à 2 heures de Paris. Ça serait bien qu'un tel endroit, une des plus belles villes du monde, une des villes les plus agréables à vivre, soit un peu mieux défendu par les démocraties d'Europe et qu'on s'oppose un petit peu plus à la dérive religieuse qui est en train de vouloir casser l'esprit de laïcité qui a toujours régné sur ce pays depuis plus d'un demi-siècle. Ça serait vraiment une bonne chose.
Nous, originaires de Turquie vivant en France, nous sommes réunis sous le toit du collectif de Taksim pour planifier des actions de soutien à la résistance en Turquie et pour informer l'opinion publique française sur ce qui s'y passe réellement.
De Paris à Taksim, résistance !
Nous déclarons ici notre solidarité avec le peuple brésilien actuellement en lutte.
Notre lutte est pour les droits. La droite et les médias conservateurs ne peuvent pas nous faire taire.
La question, ce n'est pas contre le football, la question, c'est contre l'organisation, contre une industrie qui est derrière, une industrie qui essaye de changer toutes les lois brésiliennes parce que la FIFA le veut.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec Antoine Chao, Brésil, Turquie, Paris.
Flight number 2, arriving from New York. Tout a commencé ici il y a 4 jours. Au départ, les habitants ont décidé d'occuper le parc pour protester contre sa disparition au profit d'un centre commercial voulu par le gouvernement.
France 2, 1er juin 2013.
Tout un symbole de l'autoritarisme du régime. En voulant expulser les occupants du parc hier, la police a immédiatement mis le feu aux poudres. Ce matin, le Premier ministre Erdogan, tout en reconnaissant que la police avait commis des abus, exigeait l'arrêt immédiat des manifestations. Mais sous la pression de la rue, il a finalement lâché du lest. Cet après-midi, les habitants dansaient sous les arbres du parc Gezi, alors qu'un tribunal administratif confirmait suspendre le projet immobilier.
De Paris, à Maxime, résistance.
Boulevard Beaumarchais, samedi. Taskin partout, résistance partout. Résistant Cara, résistant Boul, plateforme de résistance à Paris. Stop à la répression policière en Turquie. Le collectif de Taksim.
En solidarité avec la résistance en Turquie.
Et vous manifestez aujourd'hui dans Paris ?
Tout à fait. Nous avons déjà fait des rassemblements, c'est la première manifestation. On pense en faire encore.
Quand l'ordre est injuste, le désordre est un commencement de justice. Voilà ce qu'écrivait Romain Rolland. Quand l'ordre est injuste, le désordre est un commencement de justice. C'est bien, c'est beau, hein ? Ça vibre. Évidemment, quand c'est des manifs contre le mariage pour tous, on trouve que ce désordre n'est pas un commencement de justice, c'est une manifestation réactionnaire de franche imbécilité. Mais là, non, samedi, c'était formidable, on adore ce Paris-là. Le Paris où les Turcs manifestent, où les Brésiliens manifestent. Ça, c'est Paris, ça, c'est le vrai Paris. On retrouve un petit peu quelque chose qui se perd, hélas. D'une France universaliste où on peut s'exprimer, où on peut renvoyer des messages, etc. C'est vrai, on peut avoir de temps en temps des petites bouffées patriotardes comme ça quand on entend ça et qu'on voit ça dans nos rues et qu'on peut se dire « Ah oui, quand l'ordre est injuste, le désordre est un commencement de justice. Que se passe-t-il en Turquie ? Que savons-nous de la Turquie ? Oui, oui, il y a des Turcs dans certains quartiers de Paris, bon, bon, bon. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Ah oui, 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 il y a une espèce d'islamisme un peu sympa, quoique pas trop méchant. Et puis, mais sinon, ils sont bien au point de vue économique, ils ont une croissance. Oui, les Turcs, ils ont une croissance. Ça, c'est bien quand il y a de la croissance. Et puis, voilà, alors, est-ce qu'ils rentreront dans l'Europe ? Est-ce qu'ils rentreront pas dans l'Europe ? Alors, ça pose des problèmes, justement, parce qu'ils sont un peu musulmans. Mais ça pourrait s'arranger si... J'en discute. Voilà des trucs très très vagues, très très flous. La mondialisation, ne l'oublions pas, c'est le contraire du monde. On en sait de moins en moins sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Oui. Le monde, c'est un endroit où on va en vacances. Mais sinon, on ne sait pas trop ce qu'ils font tous ces jours-là, là-bas chez eux. Voilà une occasion. Puisque les Turcs manifestaient ce samedi à Paris et que Antoine Chao était là avec le micro de la basse, j'y suis. Mais pas seulement, il y avait aussi les Brésiliens qui manifestaient cet énorme pays dont on dit « Oh là là, il se développe, c'est formidable !» Parce que il a cessé de se développer déjà depuis quelques temps. Le Brésil, d'ailleurs, tout comme la Chine, tout comme l'Inde, ils sont comme ces grands pays qui étaient en train de se développer, ils sont en train de redescendre, et ça ne va pas sans poser quelques problèmes. Donc un tour avec les manifestants turcs, un tour avec les manifestants brésiliens pour comprendre peu à peu, c'est déjà beaucoup peu à peu, que lorsque l'ordre est injuste, le désordre est un commencement de justice. C'est à Paris, c'est au Brésil, c'est en Turquie, c'est là-bas si j'y suis, jusqu'à 16h.
Dirty bits to say, we're not the enemy. If we have enough cash, we
Alors Nour, on se retrouve là dans la manif.
Oui, je suis journaliste, cinéaste, turc, je vis à Paris, mais je suis en solidarité avec les Turcs, évidemment. Nous avons en fait créé ici un collectif des indignés turcs à l'égard du régime de Tayyip en Turquie. Sinon, en Turquie, il y a une centaine de journalistes en prison. Et malgré ça, il y a encore des journalistes qui s'exprimaient courageusement contre ce gouvernement et qui dénonçaient tout. Nous aussi, on essayait de dénoncer ça, on essayait d'informer la presse, mais on faisait toujours la sourde oreille et nous étions vraiment désespérés. Nous pensions que ce régime allait finir en se fortifiant de plus en plus et que la Turquie allait finir pour devenir un Iran bis. Oui, oui. Mais vraiment, on ne s'attendait pas à ce que le peuple se soulève de façon massive et d'un seul coup, brusquement, comme ça. Et on avait commencé à perdre l'espoir. J'ai un ami qui avait écrit un livre qui s'intitulait « La société des poules ». Et il disait que
les poules.
Oui, un peu comme les moutons, quoi. Les gens acceptent tout sans broncher. Et maintenant, on a vu que ce n'est pas des moutons, ce n'est pas des poules. Mais c'est des hommes debout et ils protestent partout.
Et quelle est la situation aujourd'hui à Istanbul ou dans le pays ?
Aujourd'hui, il y a encore de grandes manifs prévues à 19h dans toutes les places de toutes les grandes villes. Mais les gens, ils ont déjà commencé à se rassembler partout. Et il y a surtout beaucoup de mouvements de notre genre. Les gens ils restent debout pendant des heures et des heures sur des places publiques pour manifester. Il y a des étudiants, par exemple, qui passent leurs examens actuellement. Ils ont leurs livres et ils restent au milieu des places publiques avec leurs bouquins en train d'étudier.
Et vous espérez quoi ?
Et évidemment, le renversement du régime de Tayyip et surtout de ce modèle soi-disant d'islam modéré, parce que la Turquie était un pays laïque depuis 90 ans et ce n'est pas maintenant qu'on va réinventer une nouvelle religion. La Turquie était, la plupart des gens étaient musulmans, mais c'était un islam déjà très modéré, mais c'était un islam laïque qui n'intervient pas avec la vie publique. Les gens, ils vivaient leur religion dans leur vie privée. Et nous ne voulons pas d'un système où on nous impose l'islamisme comme régime. Nous voulons sauvegarder la laïcité et nous ne voulons pas ce régime économique ultralibéral non plus. On nous dit, voilà, des supermarchés partout. Vous avez tout ce qu'il faut, il y a un taux de croissance très fort. Et consommez et taisez-vous, c'est tout. Voilà.
Mais alors, comment vous caractérisez cette mobilisation ? C'est une mobilisation de gauche, radicale, écologiste ? Qui est dans la rue ?
Il y a toutes les tendances politiques qui n'auraient pu jamais pu se mettre ensemble en temps normal. Et là, bon, vous pouvez voir toutes sortes de pancartes, de toutes les tendances, de tous les partis. Et il y a des gens de tous les âges. Par exemple, Tayyip, il a fait un appel.
Tayyip, Erdogan, c'est ça.
Oui, on l'appelle Tayyip en Turquie, avec un grand mépris, bien entendu.
Tayyip, c'est son prénom.
C'est son prénom, mais personne ne dit Erdogan en Turquie. Tout le monde dit Tayyip. C'est une façon de le mépriser, en fait. Et il a fait un appel aux mères de famille en disant qu'elles doivent rappeler leurs enfants à la maison. Et les mères, elles sont sorties dans la rue, au lieu de les appeler à la maison, elles sont sorties pour être solidaires avec leurs enfants. Et Erdogan a traité tous ces manifestants de Çapulcu. Çapulcu, ça veut dire pilleur, racaille. Et toutes les mères aussi, elles ont mis des pancartes en disant nous sommes aussi des mères Çapulcu.
C'est Çapulcu, et bien j'en suis. Si c'est la canaille, et bien j'en suis. Çapulcu, et bien j'en suis. Voilà ce que dit cette journaliste Nour Delay. Une voix parmi d'autres, elle vient de le dire elle-même. C'est une contestation tout azimut contre le pouvoir actuel. en Turquie de Tayyip, comme elle vient de le surnommer, c'est-à-dire Erdogan, le Premier ministre, et qui effectivement est soupçonné de vouloir islamiser la société turque, de garder tout le pouvoir, d'exercer un pouvoir fort. Elle vient de citer ces journalistes qui sont en prison. Mais il y a aussi, évidemment, et là, c'est l'image de la Turquie depuis des années, une croissance formidable. Alors, dès qu'il y a une croissance formidable, eh bien, tout va bien. Et tout va bien pour l'opinion internationale distraite, qui ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dedans. Or, ce samedi, ben, on pouvait découvrir quelques choses qui se passaient dedans.
Il y a quelques milliers de personnes qui marchent sur le boulevard Beaumarchais de République à Bastille.
Nazım Hikmet, vivre comme un arbre, libre et seul, vivre en frère comme les arbres d'une forêt. Cette attente est la nôtre. Nazım Hikmet, c'est un poète turc qui est très connu dans le monde entier. C'est un grand humaniste. Il est passé beaucoup d'années dans les prisons parce qu'il disait la liberté, humanité, liberté pour tout le monde, contre la guerre. Voilà.
Et aujourd'hui, vous manifestez dans Paris.
Oui. Vous savez ce qui se passe en Turquie. Alors, je vais vous parler plutôt des droits de femmes. Alors, vous savez, c'est Mustafa Kemal Atatürk. Une des révolutions les plus importantes qu'il a fait, c'est donner des droits d'être élu et de choisir aux femmes, avoir les femmes européennes, les années 30. Aujourd'hui, depuis 10 ans, les femmes en Turquie, elles sont sous pression de ce dictateur qui veut enlever tous nos droits que nous avons obtenus grâce à Atatürk. Il nous impose de couvrir nos têtes. Il nous impose de rester dans la maison, faire des enfants, et au moins trois enfants, de ne plus travailler. Voilà, depuis qu'il est là, les femmes qui travaillent, moins en moins aujourd'hui, parce qu'on les impose de rester à la maison, élever des enfants. Et aussi pour les petites filles, à cause des lois qu'ils sont en train de voter, on interdit aux petites filles d'aller dans les études. Donc, on essaie de raccourcir les études des petites filles pour qu'elles restent des femmes obéissantes à leur mari. Voilà le système qui fait une oppression sur les femmes, en particulier en Turquie. Voilà. Meral Sariali, je suis céramiste.
À ceux qui dominent le peuple. Alors nous, on se retrouve là dans la manif. Tayyip, le chimique, dégaze.
Oui, parce que Tayyip a gazé tout le monde en Turquie. Il continue à gazer. Et le ministre de l'Intérieur, de façon très cynique, proclame que c'est des gaz inoffensifs parce que 100% bio. Donc c'est vraiment une explosion totale.
Et nous, vous retournez régulièrement en Turquie ?
Oui, j'y vais assez souvent. Mais je vous avoue que les dernières fois que j'allais en Turquie, j'avais toujours peur. J'avais peur de parler avec mes amis, même quand je téléphonais d'ici. J'avais peur de dire des choses qui risquent d'être mal interprétées parce que tout le monde était sur écoute. Il y a des systèmes ultra sophistiqués, automatiques, qui peuvent écouter à la fois 250 000 communications téléphoniques. Si vous êtes arrêté, vous êtes envoyé dans cette prison de Silivri, vous ne savez pas comment et quand vous pouvez en sortir. Il n'y a pas de procès juste. C'est vraiment les oubliettes. Donc tout le monde avait peur. Moi aussi j'avais peur et chaque fois que j'allais en Turquie, j'étais inquiète jusqu'à ce que je quitte le pays. Quand je sortais à la frontière, je me disais « Ouf, je ne reviendrai plus ». Mais maintenant, bon, tout ça, ça a sauté. L'empire de la peur s'est éclaté. Et maintenant, les gens, ils peuvent s'exprimer librement. À tous les niveaux de la vie sociale. Mais les gens, plus Erdogan augmente la violence, plus les gens ont envie de résister. et d'aller jusqu'au bout.
Donc la peur a disparu, mais la répression continue de plus belle, c'est ça?
De plus belle, oui, ouais. Exactement.
Mais donc ça ne fait qu'augmenter le désir du peuple turc de changer les choses, quoi.
Oui, oui, parce qu'ils disent qu'après tout ça, après tout ce qu'on a fait, on ne peut plus s'arrêter. Il faut absolument aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on renverse Tayyip. Mais Tayyip, il ne comprend pas. Il dit toujours, il pense que c'est juste pour quelques arbres sur la place de Taksim. Il veut réduire ça toujours à une histoire de 3 ou 4 arbres.
C'est la goutte qui a fait déborder le vase, ces 3 arbres,
oui,
c'était le déclencheur.
C'est ça, le déclencheur. Sinon, il y avait beaucoup d'amertume de la part des couches défavorisées qu'il a chassées des centres-villes, dans toutes les villes par exemple. Il a fait des opérations immobilières incroyables. Sous prétexte d'inconformité aux normes antisismiques, ils ont réquisitionné les maisons de tous les pauvres et ils les ont chassés très loin des centres-villes et ils ont construit des immeubles à la place de leur maison. Ils ont fait des opérations immobilières vraiment juteuses. Et nous sommes vraiment très contents de cette solidarité un peu partout dans le monde, en Allemagne, en Amérique même. C'est une résistance mondiale, je pense, contre le système qu'on essaie de nous imposer, vous voyez, du Brésil à la Turquie, un peu partout, les gens... Ils veulent se débarrasser de ce qu'on essaie de nous imposer.
Occupy, régime fasciste
en Turquie. À bas, régime fasciste en Turquie. À bas,
collectif de Taksim.
Fasciste en Turquie.
Halte à la censure, halte à la répression, vive la liberté d'expression. Occupy, c'est le petit parc.
C'est le petit parc.
Nous, originaires de Turquie vivant en France, nous sommes réunis sous le toit du collectif de Taksim pour planifier des actions de soutien à la résistance en Turquie et pour informer l'opinion publique française sur ce qui s'y passe réellement. Il y a eu 4 morts, plus de 7800 blessés, dont 59 graves, notamment 11 personnes ayant perdu la vue d'un œil pendant les manifestations. 788 personnes ont été blessées par les cartouches de gaz lacrymogène. Plus de 1000 personnes ont été placées en garde à vue durant les manifestations. Une cinquantaine sont toujours en détention provisoire. Des poursuites judiciaires pour crimes en bande organisée sont en cours d'être engagées contre les groupes qui ont participé à la résistance. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, ces luttes ne s'arrêtant pas à une frontière, il est important et nécessaire de créer une solidarité internationale et d'agir selon cette sensibilité partagée par tous. Nous déclarons ici notre solidarité avec le peuple brésilien actuellement en lutte. Comme le dit le poète Nazım Hikmet, vivre comme un arbre seul et libre et vivre en frère comme les arbres d'une forêt.
Vive la solidarité internationale des peuples. Taksim partout, résistance partout. Taksim partout, résistance partout. Taksim partout, résistance partout.
Voilà, c'est la place des poètes que d'être cités dans ces moments d'effervescence, de vibration. L'immense poète que Nazım Hikmet. Alors, on va aller un peu plus au calme. On va se mettre un petit peu au calme et on va rencontrer Alain Grèche, que vous connaissez, qui est journaliste au Monde diplomatique, qui prépare un Manière de voir. Vous savez, c'est un numéro spécial du Diplo sur la Turquie.
Je crois qu'il faut replacer les événements actuels dans une longue évolution. On a en France une vision très positive de kémalisme et de la création de la République turque et de son caractère laïque. Et on a tendance à un peu oublier que cette République, elle a été une République autoritaire, voire dictatoriale. En tous les cas, dans les années 60, 70, 80, c'est l'armée qui était l'élément essentiel de la vie politique. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est justement cette libération de la société qui a été rendue possible, paradoxalement, par les mêmes gens contre qui on manifeste, c'est-à-dire l'AKP, qui a, dans les 10 dernières années, fait rentrer l'armée dans les casernes, ce qui était extrêmement positif, et en même temps, qui a des tendances autoritaires. Et donc, c'est un peu cette contradiction. La Turquie a passé une étape, c'est-à-dire l'étape d'un rôle dominant de l'armée, pour entrer dans une étape, je dirais, de multipartisme etc. Et l'AKP a réussi cette transition. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont gagné les élections avec 50% des voix, enfin, au bout de 10 ans de pouvoir. Donc, ils ont une vraie force. Mais en même temps, notamment son premier ministre, Erdogan, a des tendances très autoritaires. Il pense qu'il peut décider pour toute la société. Et il n'a pas pris en compte les profondes transformations qu'il y a dans la société civile turque.
Alors, qui descend dans la rue ces jours-ci ?
C'est très divers. Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas vraiment d'opposition en Turquie. Il y a une opposition d'extrême droite, très nationaliste, et il y a une opposition de centre-gauche qui est l'héritière du kémalisme, mais qui n'a jamais pu se débarrasser de son idée que c'est l'armée qui est le sauveur de la nation. Ce qui ne, je crois, pas plaît à une partie importante des gens qui descendent dans la rue, qui ne veulent pas voir l'armée prendre la place des islamistes. Donc il y a une espèce de réveil de la société civile avec une très grande diversité. Et ce mouvement est assez similaire à d'autres mouvements qu'on a pu connaître, Occupy Wall Street, en Grèce, y compris dans le monde arabe. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas de leader, qui n'ont pas de programme politique, mais en même temps qui reflètent un désir de changement, d'égalité, de justice très important.
Alors à quoi ça peut mener ? Ça peut avoir un aboutissement politique ?
Oui, parce que, je veux dire, il va y avoir des élections municipales au printemps 2014 qui vont être un vrai test de justement de savoir si ce mouvement a ou non débouché. La différence, on a comparé le printemps turc au printemps arabe. La différence, c'est que, comme je l'ai dit, Erdogan a été élu. Il a été élu avec 50% des voix. Donc, et même si je pense qu'aujourd'hui, il a perdu une partie de sa popularité, il reste quelqu'un de très populaire. À moins que ce mouvement continue sous d'autres formes, je ne sais pas. Je veux dire, aujourd'hui, pour l'instant, il semble, disons, dans une période un peu de recul. Est-ce qu'il peut repartir ou non ? Mais il y a une traduction politique. On n'est pas face à un pouvoir dictatorial ou sans élection, sans compte à rendre. Ce pouvoir a des comptes à rendre. Alors, il y a beaucoup de dimensions aussi dans ce mouvement. Il y a une dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la question kurde. C'est la question kurde est une question qui pèse sur la République turque depuis la fondation de cette République, c'est-à-dire le refus de reconnaître les droits des Kurdes. Et ça, c'était une politique de l'armée, mais c'était aussi une politique des nationalistes et c'était une politique des kémalistes. Là aussi, c'est Erdogan et l'AKP, c'est-à-dire les islamistes, qui ont fait la vraie ouverture. Et à ce moment, il y a des négociations pour la première fois avec Öcalan, c'est-à-dire le leader du PKK, qui est dénoncé en même temps comme terroriste, mais on fait des négociations. Si ces négociations aboutissent, ça sera un pas en avant considérable dans la voie vers la démocratisation de la Turquie.
Alors le pouvoir turc a été présenté comme un modèle justement au moment des révolutions, et notamment en Libye. Alors est-ce que ce modèle, disons, d'un islamisme modéré a fait long feu aujourd'hui ?
Non, je ne crois pas. Je veux dire, c'est un parti, l'AKP est un parti conservateur, on dirait de droite en France, mais en même temps qui a fait un certain nombre de choses positives. Il est un modèle pour les autres organisations islamistes, comme les Frères musulmans en Égypte, qui sont sur la même orientation, mais qui n'ont pas autant que l'AKP fait le choix de la démocratie. Je veux dire, c'est ça qui est, je dirais, la ligne. Ils sont un modèle dans la mesure où l'AKP a accepté qu'il y a des règles démocratiques, il y a des élections, il y a un pluralisme, même si en même temps, il faut reconnaître qu'il y a aussi des atteintes aux libertés de la presse. Personne ne dit que la Turquie est un pays démocratique. Mais l'AKP hérite aussi d'une situation qui n'était pas démocratique. C'est pas que l'AKP a imposé une vision non démocratique. Il y a dans l'appareil turc, notamment dans ce qu'on appelle le courant kémaliste, c'est un courant autoritaire qui a toujours réprimé les Kurdes, qui a toujours réprimé les intellectuels, etc. Donc ça reste quelque chose de très ancré dans l'État turc, ce que les Turcs appellent l'État profond. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut combattre.
Merci Alain Gresh. Donc on retrouve un manière de voir complet sur la Turquie à la rentrée.
Oui, tout à fait.
Menino pobre do sertão, eu vi. Ai, ela, o povo vai comer. Ai, o bicho vai pegar. Ai, começará a estar. Caviar. Quero folia, quero paz e amor. Salve São Jorge, meu guerreiro protetor. Sou brasileiro, sou filho da sorte. Sou corintiano até a morte. Yeah! sertão eu vim.
Devant le Parlement de l'État de Rio, la police essuie la colère de ce groupe de manifestants.
LCI, 18 juin 2013.
Les barrières ne les arrêtent pas. Leurs armes, des feux d'artifice, des cocktails Molotov, les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. Au moment de la dispersion, Rio constate des dégâts. Voitures incendiées, commerces pillés, la fin violente d'une manifestation qui avait réuni, dans le calme, près de 100 000 personnes quelques heures plus tôt.
On est venu parce qu'on n'aime pas ce que ce pays est devenu. On se bat pour nos droits, notre liberté, bref, pour le changement.
La colère également à Sao Paulo. Voici l'immense avenue Paulista, noire de monde, près de 200 000 personnes. La population vient protester contre la hausse du coût de la vie et ne veut pas payer la facture pour l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football.
Le gouvernement ne comprendra que lorsque le Brésil dira stop. Et les Brésiliens sont justement venus dire stop, maintenant, aujourd'hui.
Voilà, il y a une banderole soutien au peuple brésilien. Alors là, cette fois, à la Nation, alors c'est un rassemblement en soutien aux manifestants, c'est ça, au Brésil?
Oui.
Alors là, il y a des pancartes qui se préparent. FIFA, coup d'État contre le peuple.
On prépare le rassemblement. Le Brésil est super mobilisé. On est trop contents.
Vous êtes trop contents de quoi?
Que les gens prennent en main leur destin, finalement, au Brésil. C'est ça, en fait. Parce que si ce n'est pas une démocratie populaire, c'en est pas une. Et c'est ça qui est très beau, hein, ce qui se passe en ce moment.
Comment vous expliquez ce soulèvement populaire?
Ce soulèvement, il est préparé depuis 5 siècles. C'est ça. C'est tout simplement ça, là. C'est les conditions. La Coupe du Monde était la goutte d'eau, hein, de trop. Ça ne sert à rien d'avoir une présidente de gauche si nos États continuent de mener une politique de droite et très violente. Parce que les États sont tous de droite, les gouvernements locaux sont de droite. Donc ça ne sert à rien d'avoir une présidente de gauche. Donc ce qu'on demande à Dilma, ce qu'on exige de Dilma, c'est que cette droite qui contrôle le peuple depuis toujours au niveau local, bah, qu'elle soit, pas virée, mais qu'elle soit encadrée. Virée, si, mais c'est le peuple qui va les virer dans les urnes bientôt.
Votre prénom ?
Isadora.
Il faut que vous soyez rassurés, hein, les Brésiliens ne sont pas opposés à la Coupe du Monde de foot, selon les sondages à répétition qui sont faits au Brésil. Ils sont contre le fait que ça coûte si cher. 10 milliards d'euros investis dans cette histoire avec les Jeux Olympiques. Ils considèrent que c'est beaucoup trop par rapport au coût des transports en commun, par rapport au coût de la santé publique, de l'éducation, du niveau de vie. Et puis, il y a un rejet de la classe politique, comme dans certains autres pays sur cette planète, et un rejet de la corruption, dénonciation de la corruption, etc. Alors, qui manifeste, qui conteste au Brésil? Eh bien, il y a une gauche déçue par la politique menée par Dilma Rousseff, qui succède à Lula, mais toujours avec le PT. Et puis, il y a aussi, évidemment, une récupération de cette contestation par l'opposition de droite, c'est bien normal. Donc, il y a un problème un peu qui se pose pour les Brésiliens, qui récupère cette colère, cette rage, etc. Mais ça, c'est comme ça aussi à Paris. Les Brésiliens qui manifestent, enfin leurs amis qui les soutiennent, ben ils se retrouvent dans cette même ambiguïté. Place de la Nation ce samedi, à l'ombre des magnifiques sculptures de Dalou. Un jour, on fera quelque chose. Je dis ça par parenthèse, et en présence du micro d'Antoine Chao, de la basse ultisuite.
Jamais oublié comment ça a commencé. Ça fait des années qu'on est dans cette discussion au Brésil, des années. Le Brésil n'est pas servi.
Quelle discussion?
Du droit à la ville, du droit au transport, du droit au libre déplacement.
Mais ça, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres.
C'est le...
cette question d'augmentation des tarifs des transports en commun.
C'est pas nécessairement l'étincelle, c'est un problème qui ça date depuis de
oui.
Une lutte qu'on a commencé. Ça fait des années et des années en train de discuter la mobilité urbaine au Brésil, le droit des populations, des couches populaires à la ville, au centre-ville. pour la fin de la ségrégation spatiale en plein Brésil moderne. Donc il ne faut jamais oublier pourquoi on est là, pour les droits à la ville et contre la barbarie policière. Depuis des années et des années qu'on a des mobilisations, il y a des groupes organisés, parce qu'une fausse idée que c'était créé ça fait quelques jours, c'est que le Brésil, tout d'un coup, il s'est réveillé. Ça c'est un peu faux, parce qu'une grande partie de la population brésilienne est déjà réveillée, ça fait des années et des années, en train de lutter pour ses droits, et on est empêché massivement pour les forces policières, la violence policière que la banlieue la connaît depuis des années et des années, avec la barbarie de la police militaire au Brésil. Là, les centres-villes commencent à voir maintenant, et c'est cette partie de la population qui commence à se réveiller, mais le Brésil est déjà réveillé. La question, c'est la morphologie sociale. C'est plus difficile de se réveiller si on est plus proche des couches moyennes et des hautes couches quoi, sociales. Si on est plus proche des couches populaires, on se réveille obligatoirement tous les jours. Parce qu'on voit tous les jours qu'est-ce que ça veut dire une police barbare, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir les droits à la ville, qu'est-ce que ça veut dire passer 4 heures dans un putain de bus pour accéder au travail. Contre la violence policière, les droits à la ville.
Il y a une centaine de personnes qui commencent à se réunir.
Oui, ils commencent à se réunir parce que ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec l'annulation de la manifestation.
Et là, tu peux m'expliquer la polémique là. Il y a des gens qui veulent arrêter.
Parce que cette manifestation a été organisée par un collectif qui, hier, 5h du matin, a annulé de faire cette manifestation et d'un coup a enlevé le permis de la manifestation à la préfecture de police. Parce qu'ils ont peur, parce que ça c'est une chose qui arrive maintenant au Brésil, la droite commence à essayer de récupérer les mouvements à elle. Et donc d'un coup, des mouvements de gauche, des gens de gauche ont un peu peur de comment ça peut tourner. Parce qu'on a en penchant vers la droite, dans ces couches moyennes là qui sont au Brésil en ce moment, en train d'accéder aux manifestations. Donc à cause de cette peur, ils ont dit c'est mieux de ne pas les faire, réfléchir un peu sur les prochains pas. Et donc d'un coup, ils ont annulé cette manifestation. Mais par contre, la plupart des gens qui sont là sont des gens qui ne sont pas d'accord avec cette annulation. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas laisser la droite prendre ce mouvement dans ses mains. Donc on est là justement pour dire qu'ils ne vont pas passer, non pas ça, en quelque sorte. Donc les mouvements, c'est à nous. Ça a commencé pour des vraies demandes sociales, pour des demandes vraiment ancrées dans les besoins de la population, des couches populaires. Et on est là pour rappeler qu'on est là pour les droits à la ville et contre la violence policière.
Et on parle aussi beaucoup du coût de la Coupe du Monde.
Parce qu'on dépense pas mal d'argent dans cet événement médiatique qui va rien apporter à la population brésilienne, aux couches populaires surtout.
Mais là, ça va pas être facile parce que c'est immensément populaire le football au Brésil, et notamment dans les couches populaires.
Ouais, mais la question, c'est pas contre le football, la question, c'est contre l'organisation, contre une industrie qui est derrière, une industrie qui essaye de changer toutes les lois brésiliennes parce que la FIFA le veut. Donc.
On n'est pas des idiots.
Oui. On parle de la Rede Globo.
Là, c'est le correspondant de Globo à Paris.
Oui, c'est ça.
Oui, la télé Globo ne montre pas la réalité qui se passe au Brésil à ce moment. Et elle ne nous soutient pas.
Elle était à côté de la dictature. Et c'est la média plus conservateur au Brésil. C'est pourquoi on fait cette parole-là contre la TV Globo.
Notre lutte est pour les droits. La droite et les médias conservateurs ne peuvent pas nous faire taire. Donc là, la télé a été huée, Télé Globo a été huée. Contre la criminalisation du mouvement social. Alors pourquoi le Brésil est-il révolté aujourd'hui? Vous êtes venu manifester à Paris, à la place de la Nation.
Je pense qu'on peut résumer dans 4 points essentiels. D'abord, corruption. C'est un pays dont les statistiques concernant la corruption sont géantes. Deuxièmement, incompétence administrative. Malgré le fait que les Brésiliens paient les taxes les plus chères au monde, une des taxes les plus chères au monde, on ne voit pas en retour dans les services publics. Troisièmement, aussi la violence policière qu'il y a eu au début de ces manifestations. On est censé vivre dans une démocratie où tout le monde a une voix dans la rue. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu beaucoup de violence comme réponse de la part de l'État. Et quatrième, l'inversion de priorité qu'on voit avec la Coupe du Monde et les autres événements sportifs internationaux. L'argent qui devrait être en train d'aller vers les hôpitaux, les écoles, les transports, on va dépenser des milliards et des milliards d'euros même dans les stades de foot, dans l'infrastructure pour la FIFA, et c'est pas ce qu'on priorise comme citoyen.
C'est quoi qui est chanté là?
C'est Proud.
Qui
fiers, nous sommes fiers.
Fiers, c'est ça. Nous sommes fiers de ce pays.
Renaud Lambert, vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, hein, spécialiste de l'Amérique latine, et vous rentrez du Brésil. Alors, comment vous analysez la situation au Brésil aujourd'hui ?
Samedi, il y a encore des manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes. Faut savoir qu'en fin de semaine dernière, à travers le Brésil, on avait atteint environ 1 million de personnes dans la rue. C'est absolument énorme pour ce pays qui n'avait pas connu ce genre de manifestation depuis au moins 92. 92, c'était un mouvement de dénonciation de la corruption du président de l'époque, Collor de Mello, qui avait été chassé du pouvoir. La première chose, à mon avis, qu'on doit dire sur ce qui se passe au Brésil, c'est que c'est difficile de se faire une idée très claire de qui sont les gens qui manifestent. C'est encore difficile à appréhender. Une fois qu'on a dit ça, on peut émettre quelques hypothèses. Déjà, la première chose, c'est que c'est un mouvement assez inattendu. Moi, je rentre du Brésil, j'ai rencontré des dirigeants politiques, des gens plutôt proches des mouvements sociaux, des dirigeants de mouvements sociaux, du mouvement des Sans Terre, par exemple, qui ont l'habitude de travailler avec la base, hein, qui ne sont pas perdus dans les nimbres de la bureaucratie. Et ces gens me disaient, je crois que je le cite d'ailleurs dans mon papier, des manifestations comme ça, on mettrait plusieurs centaines de milliers de gens dans la rue. C'est inimaginable au Brésil. Les manifestations sont parties d'une revendication concernant les transports, une augmentation relativement faible du prix des transports, et on a vu que ça explosait derrière ça et qu'il y avait tout un tas de revendications qui découlaient. Amélioration du service public de la santé, du service public de l'école, remise en cause de la corruption, dénonciation d'une mesure visant à autoriser le traitement thérapeutique des homosexuels à l'heure actuelle au Brésil. Mais si on prend les revendications concernant les services publics, à mon avis, on s'aperçoit de l'inertie dans laquelle c'est engagé le PT en observant que à l'heure actuelle, plus de 40% du budget fédéral, du budget de l'État, est destiné au remboursement de la dette. 40%. Une dette détenue principalement par des Brésiliens, environ une vingtaine de milliers de grandes familles qui donc se voient attribuer toutes les ressources du pays. Les dépenses dans les transports au Brésil, c'est 0,70%. Les dépenses dans la santé, c'est environ 4%. Les dépenses dans l'éducation, c'est entre les deux, je crois que c'est aux alentours de 2%. Et en demandant une meilleure éducation, en demandant une meilleure école, eh bien les Brésiliens disent il faut changer tout ça.
Et le reste du budget est destiné à préparer les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, c'est ça ?
À l'heure actuelle, c'est un peu le sentiment qu'ont les Brésiliens. Effectivement, une des pancartes qu'on a vues dans les manifs, c'était « Parfait, maintenant nous avons un stade digne du premier monde, maintenant il nous faut construire le pays qui va autour ». Mais il me semble qu'il y a une opportunité là pour la gauche brésilienne qu'elle pourrait saisir. Le gouvernement PT tente de comprendre, essaye d'accompagner le mouvement, évidemment en grande partie sûrement pour le récupérer. Dans un an, vous avez des élections à l'automne 2014. Cette opportunité, d'ailleurs, elle a été mise en avant par un éditorialiste de droite, Reinaldo Acevedo, récemment, qui craignait que les manifestations au Brésil, à l'heure actuelle, conduisent le PT à mettre la barre à gauche et, en fait, l'aide à transformer le scrutin de 2014 en formidable victoire pour le PT. Alors évidemment, pour Acevedo, c'est une grande crainte que le PT mette la barre à gauche, mais il y a des gens au Brésil, y compris au sein du PT, qui estiment que la stratégie de conciliation avec des partis de droite pour constituer une coalition au gouvernement n'est pas la bonne stratégie et qu'il faudrait oser transformer davantage le statu quo à l'heure actuelle.
Alors le PT, c'est le parti historique de Lula, hein, qui a amené Lula au pouvoir.
Il a été élu en 2002, il a parvenu au pouvoir en 2003 et le PT se crée au tout début des années 80. Il est directement lié au mouvement de lutte contre la dictature. C'est un mouvement qui... C'est un parti des travailleurs qui se disait sans patron, un parti à vocation sociale, un parti très populaire, donc a connu une lente évolution. À l'heure actuelle, c'est un parti qui est incrusté dans l'appareil d'État. Il faut savoir que une partie des entreprises privées brésiliennes sont maintenant pilotées par des membres du PT, d'anciens syndicalistes proches du PT. Les grands fonds de pension brésiliens des entreprises publiques sont pilotés par des membres du PT ou d'anciens syndicalistes proches du PT. Évidemment, l'appareil d'État est truffé d'anciens syndicalistes, ce qui veut dire que vous avez donc une forme de bureaucratie liée au PT, détenant les rênes du pouvoir, estime désormais qu'il est plus difficile de faire avancer les choses et qu'il faut faire preuve de patience. Vous avez un mouvement social et un parti qui ont été dépourvus de leurs cadres les plus formés. Et donc, jusqu'à maintenant, il semblait que, disons, le pragmatisme des dirigeants du PT au pouvoir ne rencontrait pas de capacité de mobilisation dans la rue des dirigeants les plus proches de la base. Et là, les choses pourrait changer si effectivement ce parti savait entendre la mobilisation qui a lieu à l'heure actuelle.
Merci Renaud Lambert, merci à toutes et à tous. Turquie, Brésil, Paris, un reportage d'Antoine Chao. Merci Nour Dollet, Alain Grèche, Laercio Calopès. Donc le manière de voir la revue bimensuelle du Diplo sera consacrée, le prochain numéro sera consacré à la Turquie. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique programme, émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org également. Vous pouvez faire un tour également sur la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Alexandra Bergel. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission assistée de Grégory Salomonovitch. Et Marion Lupin attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37.
La première fois qu'on lui a proposé le badge télépéage Vinci Autoroute, Vincent a dit « Ah, ça non, très peu pour moi, je n'aime pas m'engager et puis je ne prends pas l'autoroute assez régulièrement. » Ce à quoi on lui a répondu « Avec le badge Vinci Autoroute et la formule temps libre, c'est sans engagement et les mois où vous ne roulez pas, eh bien vous ne payez pas. Et quand vous payez, eh bien le paiement est différé jusqu'à 45 jours. » Alors Vincent a eu cette phrase historique, il a dit bah, « Si c'est comme ça, je veux bien. »
Vinci Autoroute, roulons autrement.
Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com.
16h et quelques secondes sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillès.
Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi dans la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain. Selon la préfecture, le secteur nucléaire n'a pas été touché. Le feu s'est en fait déclenché dans la salle des machines. On en ignore encore l'origine. C'est un joint de dilatation qui est touché. L'incendie n'est pas pour l'instant totalement maîtrisé. Le Conseil régional d'Aquitaine a voté aujourd'hui une enveloppe d'1 million d'euros d'aide exceptionnelle pour les victimes des inondations dans le sud-ouest. Ça concerne les acteurs économiques qui ont été touchés, comme les agriculteurs ou encore les industriels. Au Brésil, Dilma Rousseff doit recevoir aujourd'hui les leaders des manifestants ainsi que les gouverneurs et les maires des grandes villes où ont eu lieu la semaine dernière des rassemblements monstres. Il s'agit de répondre à la pression des manifestants et d'adopter donc une série de mesures destinées à améliorer les services publics. Vendredi soir, lors d'un discours à la Nation, la présidente brésilienne s'est dite à l'écoute de la rue. Edward Snowden a permis de faire la lumière sur les agissements des États-Unis. Le ministre équatorien des Affaires étrangères défend aujourd'hui Edward Snowden donc et sa demande d'asile politique. L'Équateur est, dit-il, en train d'examiner afin que Moscou prenne une décision conforme à ses lois et aux normes internationales. En attendant, on ne sait pas si l'ancien agent de la CIA accusé d'espionnage est toujours en Russie. En début d'après-midi, on le disait, à bord d'un avion en direction de la Havane, à Cuba. L'association des voyageurs usagers des chemins de fer, l'AVUC, a déposé aujourd'hui un recours auprès du tribunal administratif de Paris. L'AVUC dénonce l'offre promotionnelle accordée aux nordistes pour célébrer les 20 ans du TGV Nord. La SNCF propose en effet un tarif unique cet été, aller-retour aux usagers desservis par le TGV Nord à 20 euros. Et dans le même temps, la SNCF a aussi lancé une offre de 30 euros aller-retour pour les trajets situés à 2 heures de Paris. Discriminatoire, selon l'AVUC, qui rappelle aussi qu'il n'y a pas eu d'offre promotionnelle pour les 20 ans du TGV Atlantique. La SNCF ne respecte pas, dit-elle, le cahier des charges de sa mission de service public. C'est une information de nos confrères de France Bleu Roussillon. Un homme est mort ce midi dans un accident de la route sur l'autoroute A9 à hauteur de Narbonne. Sa voiture a en fait été percutée par un trafiquant de drogue qui tentait d'échapper aux douaniers. Le trafiquant a été interpellé. Il est actuellement en garde à vue. Les douaniers ont retrouvé du cannabis dans sa voiture, de la résine et de l'herbe. Mais on n'en connaît pas encore la quantité. On l'apprend aujourd'hui, un étudiant de 21 ans a été mis en examen à Besançon hier. Il est poursuivi pour avoir brisé une cinquantaine de panneaux publicitaires. Le jeune homme a été interpellé en flagrant délit. Il voulait protester contre la publicité dans l'espace urbain. Au tournoi de tennis de Wimbledon, sont qualifiés chez les dames pour le second tour Alizée Cornet et Azarenka, la Bélarusse. En revanche, Virginie Razzanoel a été éliminée. Idem pour Sara Errani, l'italienne demi-finaliste de Roland-Garros. Chez les hommes, ça passe pour le tenant du titre au premier tour pour Roger Federer, donc Jürgen Meltzer aussi, ainsi que Stéphane Robert et Benoît Paire. Enfin, elle était la doyenne de la Comédie française. Dominique Constanza est morte la nuit dernière à l'âge de 65 ans. Elle était entrée en 1973 à la Comédie française pour en devenir en 1977 la 465e sociétaire. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
France Inter, partenaire de l'exposition Musique et Cinéma, le mariage du siècle,
jusqu'au 18 août à la Cité de la Musique à Paris. Que serait la magie du cinéma sans l'émotion de la musique ? Plongez dans les coulisses de la fabrication des grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma à travers plus de 100 extraits, photos, documents inédits et ateliers ludiques. Retrouvez l'exposition « Musique et cinéma, le mariage du siècle » dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du 14e Festival du Bout du Monde, du 2 au 4 août, en presqu'île de Crozon. Retrouvez une programmation haute en couleurs avec Joe Cocker, Sandra Nkake, Scapé, Amparo Sanchez, La Rue Quétanou, The Soul Jazz Orchestra, Jacques Higelin, Manu Dibango, Relema, Gaël Faye, Mélissa Lavo et de nombreux grands noms ou découvertes venus des quatre coins du monde pour 3 jours de fête à la pointe de la Bretagne. Retrouvez le Festival du Bout du Monde dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est
et
à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ce matin sur France Inter, dont on va tous y passer, Guillaume Durand, fameux journaliste et grand amateur d'art, grondait contre certains intellectuels qui ne supportent pas l'art contemporain. Il dit ces intellectuels ou autoproclamés intellectuels disent que la peinture qui n'est pas figurative, on ne voit pas des visages, où on ne peut pas reconnaître les visages tels qu'ils sont, ou des formes de la nature. D'ailleurs, ces gens-là disent que c'est presque de l'art fasciste, en tout cas que ça a préfiguré le fascisme. Alors comment on y va ? Bien sûr, tout ça est très violent. Et quand on parle d'art, on aimerait que ce soit plus tranquille. Et il parlait aussi de la musique, qui a oublié la mélodie. Il a cité Guillaume Durand, Stravinsky. Mais je crois que celui qui a été le plus contesté, et le sera toujours, c'est Arnold Schoenberg, l'inventeur de la musique dite sérielle ou dodécaphonique. Donc cette musique qui décide que la gamme traditionnelle, que les harmonies traditionnelles, c'est du passé. Et puis finalement, on a le droit de construire son propre système, pour être bref. Mais il faut savoir que Schoenberg adorait Mozart, qu'il adorait Chopin, qu'il connaissait très bien Schumann, que Brahms a été un de ses maîtres à penser. Et si on veut aller plus loin dans ce domaine, ben on peut acquérir le disque et DVD de Florent Beaufard, grand pianiste qui s'est rendu fameux dans le domaine contemporain et ailleurs. Il a travaillé avec Pierre Boulez, par exemple. Et là, il nous livre une leçon à travers son DVD, c'est-à-dire qu'il explique justement les parentés de la musique de Schoenberg avec la musique plus ancienne. Il donne des exemples au piano et puis on a aussi le disque et qui est assez explicite. Ce sont les pièces pour le piano de Schoenberg. Il n'y en a pas tant que ça. La preuve, c'est que c'est un seul disque. Mais voici Schoenberg assez jeune, 1894. Il écrit un andantino, donc une pièce assez allante, on peut le dire. Et qui est-ce qui pouvait prévoir qu'il allait devenir la bête noire des conservateurs en matière de pensée artistique ?
Thank you.
Andantino, tiré des trois pièces pour le piano d'Arnold Schoenberg, composé en 1894, donc il avait une vingtaine d'années. Et si on avance dans ce petit recueil, on arrive à un Andantino grazioso, donc c'est à peine...